Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro inédit de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et vous accompagne tout l'été puisqu'il y a de nombreux films qui sortent, notamment mercredi prochain.
Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur ?
Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
OSS 117, le numéro 3, vous avez sans doute reconnu Hubert Bonisseur de la BAT, ce numéro 3 qui s'appelle Alerte Rouge en Afrique Noire. L'occasion pour nous de revenir sur la grande histoire d'OSS 117, d'où vient-il, qui est-il, où va-t-il ? Je vous raconte tout dans un instant et nous recevrons Jean-François Alain, scénariste historique des OSS, pour décortiquer notamment la façon d'écrire les dialogues du film devenu pour certains culte. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est le journaliste et écrivain Sorge Chalandon qui partagera avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma à l'occasion de la sortie en salle de Profession du Père, adaptée de son livre autobiographique avec Benoît Poulvorde dans le rôle principal. Alors, quelle est par exemple sa séance de cinéma la plus dingue ?
La plus dingue, pour moi, je crois que c'est Le Vent se lève de Ken Loach. Parce que l'Irlande, parce que je connais, parce que je crois connaître et parce que brusquement j'ai été immergé totalement dans la guerre civile irlandaise. J'ai été sidéré du début jusqu'à la fin.
Et pour découvrir la suite du questionnaire de Proust version cinéma de Sorge Chalandon, rendez-vous dans une demi-heure. Enfin, juste après, comme chaque samedi, j'accueillerai nos critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, on reviendra justement sur Profession du Père. On débattra aussi de la loi de Téhéran qui a triomphé au Festival du Polar de Reims, de Mila et du film C'est la vie, avec notamment Josiane Balasco, Nicolas Maury ou Léa Drucker. Voilà pour le programme de votre Clap, que vous retrouvez également en podcast. Et tout de suite donc notre récit consacré à la grande histoire d'OSS 117.
Le récit.
Revenons d'abord quelques dizaines d'années en arrière. Nous sommes en 1949. James Bond n'est pas encore né sous la plume de Ian Fleming, mais déjà, un autre agent secret passionne les lecteurs. Nom, Bonisseur de la BAT, prénom Hubert. Et figurez-vous qu'à cette époque, il est américain, issu d'une famille française, certes, mais américain. C'est l'écrivain Jean Bruce qui l'a créé, matricule
OSS 117.
OSS pour Office of Strategic Service, le bureau des services stratégiques. Écoutez bien cette archive, Jean Bruce, dialogue sur Europe 1 en 1962 avec son héros imaginaire.
Chers amis, bonsoir. C'est Jean Bruce qui vous parle. Mon cher Hubert, 3 morts en quelques jours, c'est beaucoup.
Oui, les collaborateurs du bureau 4B ont les nerfs à fleur de peau. Les dames sont particulièrement nerveuses.
Oui, et très courageusement, je dois le reconnaître, vous entreprenez de remonter le moral de la séduisante Esther Horn.
Oui.
Et pour ça, vous n'utilisez qu'une méthode.
C'est au moment où je suis en train d'appliquer cette méthode, toujours la même, n'est-ce pas ? Mais terriblement efficace, que j'entends quelqu'un qui essaye de forcer l'une des fenêtres de notre chambre. Je sors par la porte de service et je découvre Glynis Balfour, l'autre secrétaire, étendue raide morte. La balle est entrée dans la nuque.
Et très vite, les aventures d'OSS 117 passionnent les lecteurs. Au total, 265 tomes verront le jour. Ils s'écouleront à 75 millions d'exemplaires à travers le monde. Il faut rappeler qu'à cette époque, on est en pleine guerre froide et les histoires d'espionnage passionnent les foules. D'ailleurs, déjà, le cinéma reprend OSS. Jean Sacha réalise en 1957 « OSS n'est pas mort ».
Et qui connaît la combinaison de votre corps ?
Moi. Et ma secrétaire.
Votre père est donc coupable.
Pas possible.
Nous avons intercepté le microfilm du document 15A. Vous étiez le seul à le détenir en cette ville. Deux de mes agents sont déjà morts pour ça. Votre secrétaire est...
Non, ce n'est pas ma secrétaire. C'est moi.
Et pour une première, c'est un échec. Le film ne rencontre pas vraiment son public. En fait, il faudra attendre 1963 pour qu'OSS remplisse les salles. André Mbel réalise alors OSS se déchaîne, adapté du roman OSS prend le maquis.
Au moment où la paix du monde dépend de l'équilibre des forces, où la crainte d'une guerre atomique est dans tous les esprits, OSS 117 se déchaîne pour démasquer une organisation aussi secrète que dangereuse.
Oh là là!
Il faut quand même préciser que le film sort 3 mois seulement après le succès au cinéma de James Bond contre Dr. No, OSS profite sans doute de l'engouement des spectateurs pour l'univers des agents secrets. Mais les volets suivants, réalisés par M. Bell, assoient la popularité d'Hubert Bonisseur de la Batte. D'autres réalisateurs reprendront le flambeau. Mais il faut attendre 2006 avec le Kern d'espion pour qu'OSS retrouve une seconde jeunesse. Michel Hazanavicius est à la réalisation. Jean Dujardin reprend le costard d'Hubert Bonisseur de la Batte.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne. Ravi de vous voir, Hubert.
C'est ce que vous voyez.
Voyons cela.
Et la légende raconte qu'Alain Chabat et Antoine Decaune, d'abord contactés pour cette adaptation, ont refusé de se lancer dans l'aventure. Alors cette fois, Hubert Bonisseur de la Batte est un agent français et il n'hésite pas à se moquer des Égyptiens et des musulmans en général.
Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas, impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire.
Le muezzin ? Vous avez fait taire le muezzin ?
Le ?
Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin.
Ah, j'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
OSS 117, Le Caire, Nid d'espions, réalisé bien sûr par Michel Hazanavicius.
C'est vrai que moi j'étais disponible. Et surtout, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Alors, c'est toujours pareil quand vous acceptez un scénario, après vous le réécrivez. C'est-à-dire que vous remettez quand même les choses à votre sauce pour le faire de la manière où vous allez sécuriser ce type de vanne, par exemple. Mais moi, j'ai vu tout de suite un potentiel d'un film extrêmement drôle et avec un humour nouveau. Et quand Jean-François Alain, le scénariste, m'a envoyé, je lui ai dit, écoute, j'étais en train d'écrire un autre film, je lui ai dit, j'arrête ce que je fais pour faire ça, si vous me le proposez, j'accepte tout de suite.
Sauf que le ressort comique, c'est qu'à chaque fois, OSS est lui-même tourné en ridicule. Ce Kern d'espion attire 2 millions de spectateurs en salle, pour beaucoup des jeunes, qui font de certaines phrases du film, les plus chauvines, paternalistes ou misogynes, des répliques cultes. Exemple dans cet échange avec Bérénice Béjot.
Bien dormi ?
Oui, très bien, merci. J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit.
Vous dites ça à toutes les femmes ?
Non, seulement aux femmes sublimes aux yeux marrons qui m'apportent mon petit déjeuner au lit. J'aime me beurrer la biscotte.
OSS, vous l'aurez noté, qui est aussi un énorme dragueur. Et ça, dès les livres de Jean Brousse. Et pour cause, avant de créer ce personnage, Jean Brousse écrivait des nouvelles érotiques.
Vous voyez l'automobile derrière moi ?
Oui.
Ça fait un petit moment que je l'observe.
Eh bien ?
Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
C'est cet humour si particulier et ces dialogues signés Jean-François Alain qui assoient le succès d'OSS. Jean-François Alain qui sera avec nous tout à l'heure dans ce studio. Alors une suite verra le jour. OSS 117, Rio, ne répond plus.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil ? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association ?
Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis.
Oui, mais enfin, entre Allemands...
Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur.
Oui, je connais cette théorie, oui.
Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur.
Soit. Chou blanc, donc. Au Wiedersehen.
Là encore, le public, lui, répond au présent, avec près de 2,5 millions d'entrées au compteur. On y retrouve les ingrédients qui ont fait le succès du premier volet, dont l'humour absurde, comme l'expliquait Michel Hazanavicius.
Les scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre.
Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué.
L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit.
Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance.
Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure.
Moi je fais confiance aux gens et puis j'ai essayé vraiment de mettre un dispositif autour de toutes ces blagues-là. Vraiment, le film est construit pratiquement entièrement autour de ces blagues-là. Et puis après, il y a le charme de l'acteur, c'est-à-dire ça, c'est indéniable. Il a un côté enfant, il a un côté par ailleurs plutôt bon mec, il a un côté complètement idiot, il comprend rien à rien. Il y a toujours, de toute façon, il se prend toujours la sanction, toujours. Dès qu'il dit un truc, il y a toujours soit un regard, soit une remarque, soit un truc, etc. Donc il est dans cette espèce d'équilibre-là.
Et justement, en parlant de transgression, comment le public va-t-il réagir à ce nouvel opus ? L'époque a changé, plus de 10 ans après Rio ne répond plus. Cette fois, c'est Nicolas Bedos qui plonge notre agent secret en Afrique noire. Jean-François Alain, encore lui, reste au dialogue et scénario.
Que savez-vous de l'Afrique ?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards.
Ce sont nos amis.
Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu.
Tenez.
En ce moment, ils voient du racisme partout.
Et vous faites ça aussi en France ?
Ah non, il y a beaucoup moins de Noirs qu'ici. Et c'est dommage, d'ailleurs.
Alors justement, comment Nicolas Bedos et Jean Dujardin ont-ils abordé et pris en compte ce changement d'époque ?
Déjà dans le deuxième, l'époque avait évidemment changé et pas lui, et là ça se confirme. C'est-à-dire que décidément il ne changera pas. Puis je pense qu'on a envie effectivement qu'il ne change pas d'ailleurs. C'est un colon français sûr de lui et qui ne fait qu'enfiler les clichés et on s'en amuse. L'antiracisme, le racisme, ce sont des réflexions dans lesquelles j'ai baigné. Et le film parle de tout ça, oui, du paternalisme des Blancs dans la France-Afrique des années 80. C'est un film très à charge. On part de l'idée qu'il ne faut pas se faire museler par l'espèce de consensus actuel d'indignation. Perpétuelle surtout. C'est le travail de l'humour de s'emparer de ces sujets-là, parce que sinon on va se faire chier. Hein.
Alors comment écrit-on un OSS ? Comment faire évoluer le personnage pour qu'il raconte son époque tout en restant ringard quelque part ? C'est pour ça qu'on l'aime. Dans un instant, pour poursuivre notre réflexion autour de ce personnage d'OSS 117, je reçois Jean-François Alain, le scénariste de la désormais trilogie. Mais d'abord, rappelez-vous dans le Carnet d'espions, Dalida, Bambino, vous êtes à l'écoute de Clap qui, durant tout l'été, continue à vous raconter le cinéma et on en est très heureux.
Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino, bambino,
tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, bambino,
va plutôt jouer au ballon,
bambino, bambino,
comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
bambino, bambino,
ne le garde pas pour toi.
Bambino, bambino,
va le dire à ta maman.
Bambino, bambino,
les mamans, c'est fait pour ça. Dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
J'espère que vous passez un bel été en notre compagnie, on vous accompagne car les salles évidemment reste ouverte et surtout il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, notamment OSS 117 numéro 3, Alerte rouge en Afrique noire, que vous découvrirez mercredi prochain. Alors, on s'est intéressé à la grande histoire d'Hubert Bonisseur de la Batte et justement, pour continuer à en parler, j'accueille maintenant Jean-François Alain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, scénariste de la trilogie, puisque désormais voilà. On va parler de trilogie. Alors, d'abord, comment et pourquoi il y a 15 ans, vous vous dites, on va ressortir ce personnage du formol, parce que c'était quand même un vieux personnage qui avait déjà fait l'objet d'adaptations au cinéma, mais il y a des décennies.
Oui.
Comment vous le redécouvrez et comment vous vous dites, il y a un potentiel comique, on va en faire quelque chose?
Ah mais moi je n'ai rien fait. ce sont les producteurs qui, parce que leur papa lisait ces livres-là, on retrouvait ça dans le grenier, je ne sais où, et ont acheté les droits, comme on dit, enfin le droit d'utiliser le nom. et avait envie de faire une sorte, non pas une parodie, mais un pastiche de film d'espionnage. Voilà. Et ils m'ont demandé si j'avais envie de faire ça. Si je connaissais OSS 117, je ne connaissais pas, mais le nom sonne.
Oui, déjà,
ouais. Ouais, le nom sonne bien, voilà. Et puis voilà.
Et vous voyez tout de suite, vous vous dites, il y a un potentiel comique évident avec ce personnage.
Bah, le pastiche, j'aime bien. Le personnage, je ne le connais pas. Je vois une sorte de James Bond, de SAS, tout ça. Et puis, puis après, j'ai commencé à lire un livre. J'avais le droit d'en adapter, je ne sais pas, il y en a peu. Il y en a 175, je crois.
Ouais, c'est ça. Voilà.
70 millions de
ouais,
bouquins vendus.
On en parlait tout à l'heure. Ouais.
Et puis finalement, je me dis tout de suite qu'il y a un moyen de parler de la France d'aujourd'hui, enfin de 2006, et puis celle d'aujourd'hui maintenant, à travers une comédie un peu décalée sur le passé, la colonisation, voilà.
Parce que ce dont il faut se rappeler, c'est qu'au moment où le premier OSS 117 sort,
oui,
il marche bien.
Il marche bien.
Mais ce n'est pas le personnage culte que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire
non,
que le film va s'installer aussi avec les diffusions télé, avec le numéro 2. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, ça démarre bien, mais ce n'est pas la folie d'aujourd'hui.
Non, ce n'est pas la folie d'aujourd'hui. Et puis le 3, je ne sais pas si ce sera la folie non plus. C'est-à-dire que c'est... Je ne suis pas du tout pessimiste. Ce ne sont pas des films qui font 5 millions, ouais, 6 millions. Ce n'est pas les Tuches ou ce n'est pas les Ch'tis. Parce que c'est un humour particulier. Et on y a un terme pour ça, vous savez, segmentant. Voilà.
Segmentant.
C'est segmentant, voilà. Et voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave tant que ça plaît à suffisamment de personnes pour que ça continue. Alors après, ce sont devenus effectivement des films qui sont restés un peu. Et moi, ce qui me fait toujours un peu peur, c'est que ce sont des films qu'on résume dans des petits clips de 7-8 minutes avec des répliques qu'on juge cultes. Et on oublie qu'il y a des films autour. C'est-à-dire qu'il y a des films d'une heure et demie, 1h40, avec parfois des moments creux. Vous connaissez François Rollin ?
Oui.
Oui, François Rollin, dans un de ses spectacles, disait « Alors maintenant, on va attaquer le moment creux du spectacle, oui, le moment faible. » Donc c'est un sketch qui n'est pas terrible, mais comme ça, les sketchs forts apparaissent encore plus forts. Voilà, bon, c'est une expression qui me faisait rire. Et donc là, il y a, dans les deux premiers OSS, il y a des moments un peu plus creux, des moments d'explication aussi, des moments narratifs. Ce ne sont pas que des répliques qui font rire ou... Bon, voilà. Donc le troisième est comme ça aussi.
Alors justement, le troisième, oui, en Afrique noire, vous,
oui,
disiez tout à l'heure, c'est effectivement un personnage qui raconte son époque. Là, OSS, il a vieilli, il est presque encore plus ringard que dans les autres, notamment parce qu'il y a un nouveau OSS qui est joué par Pierre Ninet qui apparaît, et qu'il ringardise, qui lui est jeune, fougueux. mais il continue ses réflexions racistes, mais aussitôt, il se rend compte qu'il ne peut plus les dire. Ça, c'est vraiment un reflet de notre époque, et... Quand vous avez écrit ça, est-ce que c'était parce que c'est un reflet de notre époque ou c'est parce que vous êtes dit, s'il continue de dire ces grandes tirades racistes et qu'on ne fait pas en sorte derrière qu'ils se reprennent, ça va moins bien passer dans l'opinion publique ?
Ah non, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça, j'ai pensé à... Alors déjà, il y a une concordance un peu curieuse, puisque le film a été écrit il y a quelque temps, donc... alors bien sûr, il y a ce climat était là déjà à l'époque, mais tout ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment Black Lives Matter, tout ça... quand c'était déjà écrit. Et non, moi, ce qui m'amuse, c'est justement un crétin raciste à qui on dit « Attention, là, en ce moment, on ne sait pas pourquoi, il voit du racisme partout. Donc, fais attention. » Moi, c'est ça qui m'amuse. Ce n'était pas du tout le politiquement correct. Il n'y a rien de plus raciste qu'un raciste qui essaie de ne pas l'être. Voilà. C'est ça qui m'amuse beaucoup. Et donc, d'ailleurs, au moment, dans le film, à un moment donné, il va se lâcher. Quand il est en confiance, c'est là qu'il est le plus dangereux, OSS 117. Quand il se sent bien et non, moi c'est pas du tout lié au climat, je vais pas dire que je me fiche de ce qu'on pense, pas du tout, mais en humour, enfin en comédie, il faut pas prendre de précautions, enfin si, il faut prendre des précautions à ne pas blesser les gens et il y a aussi des choses bien dans le politiquement correct, c'est-à-dire qu'il y a quand même certains comiques qui ne peuvent plus exercer aujourd'hui, c'est pas si mal quand même, voilà, il y avait des choses qui étaient quand même vraiment pas bien et on riait de choses vraiment pas bien, mais... Moi, j'ai pas peur de gêner, j'ai pas peur de gratter. Je me pose jamais la question de savoir si le public... je sais pas comment dire. Je me dis pas, tiens, ça va plaire au public. Je me dis, ça pourrait plaire au public. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
Ah justement, il faut m'expliquer comment vous trouvez l'inspiration pour ces phrases qui sont devenues cultes. J'aime me beurrer la biscotte. Ça vient comment, ça ?
Alors là, je peux pas vous dire. Je ne peux pas. Parce que quand je vous entends le dire, déjà, ça me fait rire. Alors, je pense que la phrase est juste débile. Voilà.
Ce sera aussi l'occasion de rencontrer Gratin Kérotte.
Alors ça, c'est Michel Hazanavicius qui l'a trouvé celle-ci, vous voyez.
Est-ce que vous écrivez ensemble à
Non, le premier, je l'avais fait tout seul. On a fait le deuxième ensemble. Mais le premier, on a fait ce qu'on appelle une version de tournage. Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est le réalisateur regarde si le scénario est faisable, déjà d'un point de vue financier. Donc on coupe un petit peu, parce que c'est toujours plus cher que ce qu'on peut... Ça coûte cher de faire un OSS 117. Ça coûte cher parce que déjà les films en costume coûtent cher. Et puis après, ben, on améliore ou on peaufine. Et donc, ben, forcément, Michel, c'est un auteur aussi. Donc, il a trouvé quelques trucs.
Le gratin qui rote. À l'occasion, voilà. Je vous mettrai un petit coup de polish.
Ah oui, ça, c'est parce que mon père est obsédé par la voiture. Et il a un truc. Est-ce que vous connaissez la nénette ?
La nénette, ça me dit quelque chose.
La nénette,
c'était pour les espèces de crème pour les voitures, non ?
Non, alors il doit y avoir une crème nénette, sans doute, ils ont dû diversifier, ça marchait tellement bien. La nénette, c'est une sorte de petite brosse toute douce qui est dans un tube en métal.
Ah, c'est ça.
Donc on dit, je vais mettre un petit coup de nénette.
Voilà. D'accord.
Et le coup de polish, parce que j'ai mon père, quand je vais voir mes parents maintenant, le week-end, si j'ai un petit truc sur la voiture, mon père sort un polish, puis met un petit coup de polish. Donc ça, c'est un clin d'œil à mon père, ça.
Comment est votre blanquette ?
Alors ça, c'est juste parce que je voulais jouer sur des codes absurdes et je me disais, c'est drôle d'avoir un espion qui parcourt le monde, qui sauve la France ou qui sauve le monde libre et qui ne pense qu'à bouffer. Et donc la blanquette, pour moi, c'est un... Déjà, j'adore ça. Et puis, c'est un plat très français, terroir, franchouillard. Donc c'est ça qui m'amuse. J'aime le décor, l'arrière-décor, les coulisses des espions. Ça m'amuse beaucoup.
C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle.
Ah oui, alors ça c'est tout le passage que je préfère, ça. C'est tout le passage blablabla, ça c'est... J'aime vraiment beaucoup ça, et juste après, il y a... Donc ça c'est dans le premier, oui. Hein. Et après il y a le nazi égyptien que j'aime vraiment beaucoup, qui est... quand il lui dit, toi qu'est-ce qu'il y a, toi, ça me fait beaucoup beaucoup. Tu n'es pas seulement un... Vous vous souvenez ou pas, je me souviens
mais
pas.
Mais pourquoi, ce que je veux comprendre, c'est comment ça vient ça. C'est bête, mais vous allez me dire, bah ça vient, je suis auteur, ça vient, mais est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon, on va faire une blague sur les nazis, parce qu'évidemment, le film, voilà, alors comment, évidemment, c'est plus provocant si on est, entre guillemets, pro-nazi. Est-ce que ça se compose ou est-ce que ça vient tout seul ?
Alors là, ici, là, nous sommes à Europe 1, et nous sommes dans les anciens locaux de Canal+. Oui. Moi, j'ai travaillé longtemps ici, j'étais au Guignol de l'Info, et c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au Guignol, c'est vieux, même si les Guignols se sont arrêtés il n'y a pas très longtemps, mais... Ben, on trouve des phrases comme ça, parce que je pense qu'il faut bien créer le personnage, avoir un personnage qui est bien cerné, ensuite se mettre dans la peau du personnage, donc ça veut dire l'imiter. Donc moi j'imite Jean Dujardin chez moi, c'est pitoyable, mais je fais ça. Et puis après imiter des situations, et se mettre à la place d'un nazi, ce qui n'est pas très facile, mais ni très agréable, mais qu'un nazi dise, bon ça va, le Troisième Reich était il y a 10 ans, on peut avoir une deuxième chance. Je trouve ça extrêmement culotté, extrêmement drôle, comme dans le deuxième, quand on lui demande d'arrêter ce nazi pour qu'il paie pour ses crimes. Et OSS 117 qui fait qu'ils sont ben, la Shoah. Ah oui, ça aussi, quelle histoire. Ça aussi, quelle histoire. Ben, ça vient comme ça. Et c'est un concours de culot, c'est un concours de phrases un peu choquantes. On se dit, mais qu'est-ce qu'un crétin dirait, voilà.
Dernière question, maintenant qu'il y a eu un 3, enfin, il y aura un 4.
Ben, maintenant, c'est plus facile. Voilà, parce que le 3, on a trop attendu pour le faire, mais c'était, voilà, il fallait, je sais pas, c'est venu maintenant.
Il y avait des problèmes avec Michel Hazanavicius, vous ne tombiez pas tous d'accord. Là, hop, on est passé à une autre équipe.
Là, il faudrait faire une grande émission là-dessus. Mais,
et en puis, tout cas,
je
ne
suis pas sûr que ce soit passionnant.
Non.
Mais il y a un 3, bah, vous l'avez vu. On pense que le 3 est bien. On pense que les gens ne vont pas être déçus. En tout cas, on a tout fait pour que ça soit dans la lignée des deux premiers. Et puis, bah, évidemment, pourquoi pas un 4, bien sûr.
On va découvrir cette alerte rouge en Afrique. Il y a une petite appréhension sur celui-là, supplémentaire, ou pas forcément ?
Il y a eu tellement de pression depuis le début, tellement de...
Ouais, vous n'êtes plus à sa près.
Je ne suis plus à sa près, je suis impatient de... Bah, si, j'ai évidemment, puis là, voilà, on est en été quand même, donc...
Est-ce que les gens vont aller en salle?
Je pense que les gens ont envie d'aller en salle, je pense que les gens ont envie de voir notre film, et je suis impatient d'avoir la réaction des gens, d'avoir la réaction du public, parce qu'il y a un public fidèle pour OSS, et c'est chouette.
OSS 117, alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin. Et Pierre Niney, qu'il ne faut pas oublier parce que son rôle est aussi très important dans ce film-là. Et...
Vous savez comment il s'appelle au Québec, le film ?
Non.
Bon baiser d'Afrique. Parce que le titre les gênait un peu.
Ah oui.
Donc vous voyez, OSS,
comme quoi
OSS gêne toujours, voilà.
Et c'est pour ça qu'on l'aime sans doute aussi.
Mais c'est pour ça que moi je l'adore en tout cas, oui.
Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-François
Lain,
scénariste de la trilogie OSS, d'être venu dans ce clap. Nous les amis, on se retrouve dans un tout petit instant. On va ouvrir notre questionnaire « Les films de ma vie ». Et aujourd'hui, c'est le journaliste et romancier Sorge Chalandon qui a accepté de répondre à notre questionnaire à l'occasion de la sortie au cinéma mercredi prochain de « Profession du père » adapté de l'un de ses livres. Restez à l'écoute.
Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'accueille maintenant le journaliste et écrivain Sorge Chalandon. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors vous allez jouer le jeu dans quelques instants, notre questionnaire « Les films de ma vie ». Mais si vous êtes là, c'est surtout à l'occasion de la sortie en salle de « Profession du père », adapté de votre roman. je vais le dire pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu, il en reste sans doute quelques-uns, dans lequel, roman dans lequel vous imaginiez un père qui s'est inventé mille vies et surtout une mission, tuer le général de Gaulle. Il va embrigader son fils, qui s'appelle Émile, 12 ans, pour qu'il l'aide dans le film « Ce papa ». J'allais dire un peu fou, c'est pas que ça, mais en tout cas, « Ce papa » est joué par Benoît Poulvorde. Quelle idée !
Je n'ai rien imaginé.
Je sais, c'est ça le pire.
Je doutais que la question était... Non, c'est mon père, c'est la vie de mon père, c'est la folie de mon père, c'est la violence de mon père. Mais quand j'ai vu Poulvorde la première fois, je lui ai dit... J'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que ce père, ça soit vous, en fait. Ouais. Parce que je pense que je vous aurais aimé quand même. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec ce père-là, je me suis sauvé parce que je me sentais un peu en danger de mort. Et mon père avait cette particularité d'inventer, puisque le titre « Profession du père », c'est ce que les enfants écrivent. Ouais.
De s'inventer une profession.
Premier jour de l'école, nom, prénom, profession du père. Et donc, il me disait qu'il était parachutiste, chef de la CIA. Et dans le film, il est l'un des responsables de l'OS. Donc, il y avait Charles Jouot, Salan-Zeller, les fameux généraux, et Chalandon. Mais lui, on l'a moins vu parce qu'il disait qu'il restait dans l'ombre. Et je me demandais ce que ça pourrait donner à l'écran.
Et justement, alors, parce que vous avez vu le film.
Ouais, et c'est magnifique. C'est-à-dire, moi, heureusement que j'ai pris du recul, pas parce que c'est toujours extrêmement dur d'abord d'écrire ce que l'on a vécu, mais de voir jouer par d'autres. Brusquement, c'est incarné par d'autres. Mais j'étais terrorisé. J'y suis allé, j'ai fait exprès. Je suis allé avec mes filles pour qu'elles voient ce qu'était leur grand-père. Et quand elles sont sorties, elles étaient plus effondrées que moi. C'est-à-dire, elles m'ont dit « Papa, je crois qu'on a pas mal de chance ». Et je dis « Oui, effectivement, on a pas mal de chance ».
Bon, on y va pour notre questionnaire ?
Allez.
Le film s'appelle, je le redis, « Profession du père ». Votre premier souvenir de cinéma, Sœur Chalandon ?
Z.
Ah, de Costa Gavras.
Z de Costa Gavras, je crois que je l'ai vu une trentaine de fois. Une trentaine de fois, parce que j'ai compris tout d'un coup ce que le cinéma... Ce n'était pas juste, c'était quelque chose qui faisait serrer les poings. Et donc Z, j'y suis allé, je suis retourné. À l'époque, il y avait encore des séances permanentes où on tournait dedans, où on restait assis en fait. Et ce soir, l'ennemi se réunit dans notre ville. Nous n'interdirons pas la réunion, mais nous n'interdirons pas non plus à ceux qui pensent le contraire de se manifester. Je connaissais tous les dialogues, on le répétait entre les copains, et c'est l'un des films qui m'a mis en colère pour la première fois. Et là, je me suis dit, waouh, le cinéma, c'est pas juste pour rire. Et Z, pour moi, ça a été un bout. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de colère dans un film.
Messieurs, il y a un problème. Cette salle ne remplit pas les conditions de sécurité requises.
Il y a 15 jours, on y donnait des spectacles, monsieur le directeur de la police.
Voici un rapport. Le plus grave, c'est qu'il manque une issue de secours.
Il n'y en a jamais eu.
Pour les spectacles, ça n'est pas grave. Parce qu'ils ne présentent, eux, aucun danger. Par contre, une réunion comme la vôtre risque d'échauffer les esprits.
Nos réunions ne représentent aucun danger, en aucun cas.
Enfin, monsieur. Je n'ai aucune raison de vouloir empêcher cette réunion. Dans cette affaire, je suis totalement neutre. Croyez-le bien.
Votre pire souvenir en salle ?
Mon Dieu, oh, ça je l'ai en tête parce que j'ai quitté la salle. C'était Le Locataire. Ce film magnifique. Polanski, donc c'est cette personne qui habite un appartement qui appartenait à une femme avant et cette femme s'est suicidée. Et je suis dans la salle, il y a du monde, les gens mangent du pop-corn un peu. J'ai un souvenir comme ça, déjà c'est extrêmement difficile avec Polanski à l'écran. Et tout d'un coup, Polanski doucement s'habille en femme, c'est-à-dire qu'il se met dans la peau de la résidente qui était là avant. Et à côté de moi, j'entends un mec qui dit « Ah, pédé !» Et je suis parti. C'est un souvenir pour moi qui est d'une brutalité qui est... Après, je me suis dit, c'est marrant parce qu'il faudrait avoir un permis de cinéma comme un permis de conduire. C'est-à-dire, il faudrait quelques questions avant le film.
Avant de pouvoir rentrer.
Oui, pouvoir rentrer, ce qui est dégueulasse, évidemment. Et je n'ai jamais revu le film. Jamais. Non, j'ai pas voulu le revoir parce que c'est associé dans mon esprit à quelque chose qui est d'une violence absolue. Je sens qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement fort, etc. Et tout d'un coup, il y a une voix d'un petit salopard qui est à droite, qui est pédé comme ça, et puis en mangeant des trucs, je sais pas quoi. Et là, je suis parti, je suis sorti, il pleuvait, je suis allé respirer, et j'ai peut-être pleuré, même.
Ah, ces chaussures sont ravissantes, ma chère.
Où les avez-vous donc achetés? Rue du Faubourg Saint-Honoré. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Supermarché, hein? Oh, magnifique. Magnifique, adorable. Une déesse divine. Divine. Je crois que je vais être maman.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
La plus dingue, pour moi, je crois que c'est... Enfin, l'une des plus... Non, je crois que la plus dingue, c'est Le Vent se lève, de Ken Loach. Parce que l'Irlande, parce que je connais, parce que je crois connaître, et parce que ben, quand je suis projeté en 1920 avec ce cinéaste-là, avec ces images-là, avec ce ton-là, avec cette violence-là, brusquement, je suis sorti de là... Et je peux vous dire, quand je suis sorti de là, d'abord, j'étais mouillé de pluie, j'avais une casquette, une large casquette, genre Peaky Blinders sur la tête. Et voilà, donc c'était dingue parce que j'ai été immergé totalement dans la guerre civile irlandaise pendant les deux heures du film. Et ça, c'est assez rare. Généralement, il y a des gens qui regardent leur montre ou qui baillent ou je sais pas quoi. Et là, moi, j'ai été sidéré du début jusqu'à la fin.
Je jure solennellement que je ferai tout mon possible pour soutenir et défendre le gouvernement de la République d'Irlande contre tout ennemi provenant ou non du pays. Et tous ceux qui ont participé à de tels crimes se rendent coupables des pires péchés. En d'autres termes, l'excommunication.
Et encore une fois, l'Église catholique, à part d'honorables exceptions, choisit le camp des riches.
Sortez !
Fais pas de conneries, Damien.
Est-ce que tu te rends compte que tu me dis ça depuis que j'ai 12 ans ? J'espère que l'Irlande vaut le coup qu'on se batte pour elle.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Serge Chalandon.
Vivre?
Ouais.
Alors, si j'ai le beau rôle ou le mauvais rôle?
Ça, c'est vous qui choisissez.
C'est moi qui choisis. dans Barry Lyndon, je pense.
Ah. Avec le rôle?
Non, ah non, non, bah non, 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 pas du tout. Non, mais être là, être dans cette lumière, être au... dans cette musique, être dans avec ces gens, même habillé en ville sans qu'ils me remarquent, mais j'aimerais être dans ce lieu-là, à ce moment-là, avec ces bougies-là et cette violence-là aussi.
Un film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer?
Ouais, non, j'ai pas honte. Moi, j'aime bien Les Visiteurs, le 1, parce que j'aime bien Jacouille. Et j'aime bien Jacouille. Et puis, bon, moi, tout de suite, quand le président a pris une gifle et j'ai entendu Montjoie Saint-Louis, j'ai pensé à Jacouille. Je me suis dit, ce type n'a aucune culture royaliste, mais il a vu ce film et tout d'un coup, il ressort ça, comme il aurait pu dire, je sais pas. Nonobstant, je sais pas quoi.
Vite, vite, commandant! Faites intervenir vos gars! C'est un forcené! Il a pris l'interne en otage!
Bonsoir! C'est un ennemi! Que trépasse si je faiblis!
J'ai un doute affreux. Je me demande si, en fin de compte, ce Romanichel n'est pas de ma famille.
Pardon ?
Il vient de hurler Montjoie, qui est le cri de guerre des chevaliers français.
Hein ?
Il vient aussi de hurler Que trépasse si je faiblis. Et ça, c'est la devise de Godefroy le Hardy. Le premier comte, c'est la devise de notre famille.
Vous auriez pu avoir ce doute affreux plus tôt !
Et le film qui vous a fait le plus rire ?
Le plus rire, mais je crois... Enfin, j'étais petit, mais je crois que c'était La Grande Vadrouille, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que La Grande Vadrouille m'a fait rire parce que pour la première fois, on riait des nazis. C'était tout nouveau, c'était tout récent, on ne riait pas, on n'avait pas le droit de rire des nazis, mais brusquement là, je ris avec Louis de Funès et Bourvil de ces gens qui nous ont fait du mal, et ça me fait du bien, moi.
Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices?
Monsieur le commissaire.
Je ne suis pas commissaire, je suis major.
Moi, monsieur le major, je veux gagner du temps, on ne va pas perdre de temps, je vais tout vous dire.
À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors,
Alors voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal.
Il y a une petite erreur, Major Harbard. C'était pas un lundi.
Quoi?
C'était un dimanche.
Oui, c'est vrai, oui.
Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier.
Voilà.
Trompez-moi, vous osez vous foutez? Je sais qu'il me manque deux aviateurs anglais.
Combien?
Deux!
Ça fait pas tellement.
Pour finir, sur Chalandon, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Ah, il était une fois la Révolution. Bien sûr.
Parce que
l'Irlande?
Encore ça, on y revient.
Mais oui, je suis désolé. Non. Parce que l'Irlande, parce que la dynamite, chan, 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 pa, 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 la, 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 la. Pour moi, c'est, enfin, je, c'est avec Z, c'est le film que j'ai le plus vu. Voilà, dans toutes les langues.
Merci, Sœur Chalandon, d'avoir joué le jeu.
Je suis très content que vous m'ayez invité.
Eh ben, c'était un plaisir.
On parle pas souvent de
cinéma. Ben voilà, et donc j'invite nos auditeurs à aller voir en salle l'adaptation de votre livre, Profession du père, porté notamment par Benoît Poulvord, c'est la tête d'affiche, mais aussi par des gamins qui sont assez incroyables et qui jouent magnifiquement bien. Et je pense que des rôles encore plus compliqués que celui que joue Benoît Poulvord.
On peut même les citer, il y a Jules Lefebvre et un formidable petit gamin aussi, qui s'appelle Tom Lévy. Et faire jouer des enfants, c'est pas simple, et là c'est mission accomplie.
Profession du père, donc c'est en salle. D'ailleurs, dans un tout petit instant, on va y revenir sur ce film avec nos critiques, on va voir ce qu'ils en ont pensé. On débattra aussi de la loi de Téhéran, de Mila et de la comédie C'est la vie. Restez à l'écoute de Clap.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et chose promise, chose due, on va maintenant débattre des films sortis en salle mercredi dernier, avec aujourd'hui autour de la table Fabrice Leclerc de Paris Match et Thierry Chaise de Première. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Au programme, je le disais, Profession du père de Jean-Pierre Améris, porté notamment par Benoît Poulvord. On verra aussi, s'il faut aller voir, moi je pense que oui, la loi de Téhéran. On débattra du film Mila et de la comédie C'est la vie de Julien Rambaldi, avec tout un tas de castings, Josiane Balasco, Nicolas Maury, Léa Drucker. Mais commençons donc par Profession du père de Jean-Pierre Améris, porté notamment par Benoît Poulvorde.
Profession du père, parachutiste. Et les parachutistes, ton père est mine.
C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, deuxième dame ? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits.
Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père.
Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer De Gaulle ? Vous mesurez la gravité des choses ?
C'est toi qui es fou, papa.
Voilà. Profession du père, adapté du roman de Sorge Chalandon, qui était avec nous il y a quelques minutes. Alors, on est dans les années 60, dans une petite ville française où vit Émile, 12 ans, avec sa mère et son papa. Un père pour le moins instable, mais attachant, tendance mythomane. Alors, il lui raconte qu'il a été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion et surtout conseiller du général de Gaulle. Et c'est là que ça va se gâter, puisqu'il va confier une mission à son fils pour sauver l'Algérie, tuer le général de Gaulle. Alors c'est un film qui se passe en partie dans le huis clos de l'appartement. Le gamin va aussi rencontrer un deuxième gamin avec qui va se passer pas mal de choses. Le père, c'est vraiment un tyran domestique. Voilà, c'est une aventure à hauteur d'enfant. Le film est peut-être un peu moins sombre que le livre, mais est-ce qu'il vous a convaincu, Fabrice Leclerc ?
Écoutez, oui et non. Oui, parce que je trouve le propos et le propos du bouquin de Sorge Chalandon assez étonnant. Ça me rappelle un peu un film qu'on avait vu au Festival de Cannes il y a quelques semaines qui s'appelle Les Intranquilles, oui. Où on parle un peu de ce personnage de père qui est en train un peu de perdre les pédales, et le regard de son enfant qui se rend bien compte qu'il y a un problème. Après, moi, je trouve que le film n'arrive pas toujours à aller jusqu'au bout de son propos. Ça tombe un peu parfois dans l'artificiel. Après, il y a un casting qui rattrape le tout, notamment évidemment Benoît Poulvorde qui peut tout jouer. Donc c'est un film intéressant il y a peut-être deux films en un pour moi. C'est peut-être là le problème. Je sais pas ce qu'en pense Thierry.
Thierry, mais... Profession du père.
Moi, j'avais été vraiment très sensible au livre qui était en effet beaucoup plus noir. Et donc, je pense qu'il est compliqué à adapter et compliqué.
Et quelle histoire de Sorge Chalandon.
Voilà. Et quand le film a été présenté en Angoulême. Jean-Pierre Améris est monté sur scène avec son producteur Olivier Delbos, qui ont senti que cette histoire leur avait parlé personnellement. Et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être de la gêne qui vient de là. Moi, Jean-Pierre Améris, il sort d'une famille allouée de Je vais mieux, qui sont deux films vraiment qui étaient pour moi très ratés. Je trouve que c'est un film de convalescence, imparfait, mais compliqué à faire. Poulvorde, le gamin qui s'appelle Jules Lefebvre, ouais. Je trouve vraiment qui fonctionne hyper bien. Voilà, je suis ravi de voir Améris revenir à des choses, voilà, on sent que cette sensibilité lui plaît, qu'il a parfois du mal à se positionner. Moi, j'ai l'impression de voir quelque chose où il se brûle et il n'ose pas trop y aller par moment. Mais une fois encore, si vous aimez Poulvorde, ouais, au moins ça. Ce qu'il fait, et c'est compliqué à faire, ouais. Il le fait vraiment bien.
Profession du père, donc signé Jean-Pierre Améris, avec effectivement Benoît Poulvorde dans l'un des rôles principaux. Alors, on va changer d'ambiance pour discuter maintenant de La loi de Téhéran de Saïd Roustaï, grand prix et prix de la critique au festival du film Polar de Reims. Film dense et pour le moins intéressant, je trouve, on en parle dans un instant. Rien qu'avec ces quelques secondes, je trouve qu'on est dans l'ambiance. La loi de Téhéran qui s'ouvre sur une course-poursuite effrayante, à pied, bluffante. Un dealer tente d'échapper à un policier, il est prêt à tout et pour cause en Iran. Posséder de la drogue est puni de la peine de mort. Que vous ayez quelques grammes ou des dizaines de kilos, c'est la même chose. Et donc, ce dealer court et finit par tomber dans un énorme trou sur un chantier de construction. Dans les secondes qui suivent, le trou est recouvert par tout un tas de ciment. Voilà, ça vous donne une idée de l'ambiance de ce film. Alors, nous, on va suivre notamment Samad, qui est un flic pour le moins obstiné, aux méthodes peut-être discutables, mais efficaces. Il vient enfin de mettre la main sur le parrain de la drogue, sauf qu'il va se retrouver confronté à la tête du réseau et que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Là aussi, je ne veux pas trop en dire, mais au-delà du polar, c'est vraiment une plongée intense dans la société iranienne. Certains voient deux films en un, c'est en partie le cas, mais je trouve que c'est pas forcément grave. Thierry Chaise.
Non, c'est, moi je trouve que c'est pas grave. C'est 2h15 de haute intensité. Mais alors là, pour le coup, on est tenu de A à Z. moi, vraiment, je retiendrai un, le fait que William Friedkin, qui a fait French Connection, a double film.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est un French Connection iranienne.
Voilà, c'est ça. Le titre original, c'est 6,5, parce que j'ai donc appris que 6 500 000 Iraniens étaient des consommateurs de crack. Ce qui fait quand même, voilà. Et comme vous l'avez dit, comme le fait qu'on ait 30 grammes ou 30 kilos, de toute façon, on est condamné, autant avoir 30 kilos si on est... Ça. Et il y a donc tout ce suspense-là, il y a un travail à chaque fois sur l'espace, dès ce début, mais ensuite à l'intérieur de la prison, qui est vraiment très impressionnant.
Surchargée.
Voilà, là, pour le coup, il y a du cinéma, il y a un récit, et il y a presque un côté documentaire qui est mêlé. Donc, ça fait plein de films, mais moi, le film qui est la réunion de ces plusieurs films me plaît beaucoup.
Fabrice Leclerc, La Loi de Téhéran.
Ça me plaît beaucoup aussi. Il y a un travail aussi sur le personnage principal, qui est un flic, mais qui est pas forcément un flic extrêmement recommandable. Et j'aime bien, moi, les polars. Parce qu'il faut rappeler que c'est un thriller et polar total.
Assumé.
On est dans le film de genre, et on est aussi dans à nouveau, et c'est souvent le cas avec le cinéma iranien, dans une peinture de cette société qu'on découvre petit à petit, et non, surtout par le cinéma. Et c'est un film brillamment réalisé. Là, je crois qu'on a un grand metteur en scène qui est en train d'émerger. Film à la fois social, politique, thriller. Vous allez pas décoller de votre siège, vous allez voir. Non, vraiment grand film, oui.
Ça fait partie de ces polars qui sortent l'été. C'est comment, Le Caire Confidentiel, il y a quelques années. Voilà, si vous aviez aimé ce film-là, c'est vraiment des polars. Si vous voulez vous faire une toile pendant l'été.
Une toile intelligente.
Exactement, ça s'appelle La Loi de Téhéran. On a aussi parlé de Profession du Père. Et je voulais maintenant qu'on parle de Mila, signée Shannon Murphy.
What are you doing here?
I've just been kicked out of my house.
Evicted?
Yeah, evicted.
Voilà, ça crie beaucoup dans Mila. C'est une adolescente qui est atteinte d'un cancer. Elle vient de commencer sa chimiothérapie. Sur le quai de la gare, elle est d'abord attirée puis intriguée par Moses, un jeune marginal foutu à la porte par ses parents. Elle décide de l'accueillir chez elle, en ne laissant pas trop le choix à ses propres parents. Et au fur et à mesure que Mila va reprendre goût à la vie, en partie grâce à ce Moses, et bien ses parents, eux, sombres, ne supportant évidemment pas la maladie de leur fille. C'est donc un film évidemment tragique. Rien ne nous est épargné. Mais en même temps, plein de vie, je trouve, Thierry Chaise.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que j'avais peur au départ d'un torrent lacrymal qui emporte tout sur son passage. Oui, c'est émouvant, mais il y a quelque chose, à la fois dans la mise en scène de Shannon Murphy, qui a reçu un prix à Cannes parmi tous ses prix annexes. Et il y a une actrice que je trouve épatante, qui s'appelle Elisa Scanlan. Alors, on l'avait vue dans Les filles du Dr Marsh, c'était la plus jeune des sœurs. C'est quelqu'un qui débute. Et pour jouer ce personnage qui vit sa première grande histoire d'amour, qui sera possiblement sa dernière, je trouve qu'elle apporte une fantaisie, une énergie qui va contrecarrer le film qu'on attend de voir. Et tout au long, ce combat entre ce qu'on a peur de voir et ce qu'on voit dure tout le long du film, dure pendant 2 heures, et pour moi, marche totalement, mais une fois encore, grâce à cette actrice que je trouve absolument phénoménale.
Je souscris, Fabrice Leclerc.
C'est une tragédie pop, je suis d'accord avec Thierry. C'est un film extrêmement troublant et très difficile à suivre. Et c'est un film plein de poésie, plein de légèreté, avec plein de vie. C'est extrêmement bien filmé, il y a des séquences oniriques, et il y a beaucoup de couleurs dans ce film. Il y a beaucoup de création visuelle, de création sonore. Il y a un vrai travail de cinéma sur un sujet certes rebattu, qui je trouve est traité de manière assez sensible et sans émotion. Moi, j'ai pas pleuré au film. Normalement, moi, là, je devrais être encore en train de pleurer. Écoutez, j'ai pas écrasé ma larme, mais
à
j'ai
la
été
fin, quand même. J'ai pas, pas plus. Mais...
J'ai pas écrasé ma larme, mais j'ai été très ému.
Ah ouais, franchement.
Et ça, c'est bien de pouvoir faire des films comme ça aussi.
Bon, ben voilà.
Préservez mes canaux lacrymaux, s'il vous plaît.
C'est un beau programme encore cette semaine. Hein. Mila de Shannon Murphy, et on va terminer avec une comédie quand même, parce qu'après tout ça, faut qu'on se détende un peu. Ça s'appelle C'est la vie. C'est signé Julien Rambaldier, s'est porté notamment par Josiane Balasco, Nicolas Maury ou Léa Drucker.
Eh ben ça y est, vous êtes enceinte.
Je suis enceinte. C'est pour une admission.
Désolée, c'est pour un prématuré, il faut m'examiner d'urgence.
Ouais chérie, qu'est-ce qui se passe?
J'ai des contractions là, c'est maintenant, je le sens.
Je suis désolée, je dois y aller.
Faut que je prenne ce train. Mon père vient de mourir, ma mère est seule, elle a besoin de moi.
J'ai dit à ma femme que je serai à ses côtés si jamais elle accouche aujourd'hui. J'y serai.
C'est pour ça que je fais ce métier. Pour que toutes ces femmes puissent accoucher dans les meilleures conditions.
Bon, tout est dit. Hein. C'est l'histoire de 5 femmes qui vont donc accouché. Leur lien, Dominique, la sage-femme pour le moins bourrue, dont c'est le dernier jour avant la retraite. Elle est jouée par Josiane Balasko et elle doit travailler avec un jeune obstétricien arrogant. Courant passe pas du tout, lui il est joué par Nicolas Maury. Et donc, cinq femmes au profil varié vont venir accoucher. Alors, vous avez la dirigeante d'entreprise qui assure ses visioconférences depuis son lit de maternité. Vous avez celle qui veut accoucher le plus naturellement possible. Celle dont le mari est à l'autre bout de la France et, pas de chance, les trains sont complets. Sans vous spoiler, il va quand même finir à cheval. Enfin voilà, ça s'enchaîne comme ça. Fabrice m'a dit, en rentrant dans ce studio, qu'il avait plutôt bien aimé C'est la vie.
Alors,
comme
attendez.
Ce n'est pas mon avis, je vous laisse défendre ce film.
Attendez, arrêtez de vous énerver, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on le disait la semaine dernière, il y a des films d'horreur l'été, qui sont des films d'horreur popcorn ici et là. On le disait aujourd'hui, il y a des films un peu d'auteur qui parlent du monde. En été aussi. Eh bien, il y a la comédie française de l'été. Eh bien, là, voilà. Et dans le registre de la comédie française de l'été, moi, j'avoue que ce baby-boom version cinéma, filmé d'ailleurs comme baby-boom, moi, ça m'a fait plutôt rire. Je trouve que Balasko fait toujours la même chose, mais le fait très bien. Il y a une certaine tendresse. Nicolas Maury, je trouve que c'est un très bon choix dans une comédie un peu, voilà, très populaire, un peu pâteau, de le prendre lui, parce qu'il y amène une certaine légèreté, grâce. Voilà, après, c'est dans la norme de la comédie française. C'est très hétéronormé. J'avoue que voir la vision de la natalité aujourd'hui, il faudra peut-être que le cinéma français fasse aussi sa petite révolution. Mais sinon, écoutez, on a vu largement pire dans la comédie française. Moi, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Là encore, une petite sieste et de la clim dans la salle, hein, ça passe tout à fait.
Eh bien, on va laisser Fabrice aller voir C'est la vie. Et nous, avec Thierry, on va aller voir Mila ou La loi.
Je l'ai vu déjà.
Allez, revoir.
Non, quand même pas.
Mila, La loi de Téhéran ou Profession du père. Fabrice Leclerc de Paris Match, Thierry Chaise de Première. Merci beaucoup d'être venu dans ce clap émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson. Je vous rappelle qu'on se retrouve tout l'été pour des émissions inédites. La semaine prochaine, on parlera des musiques de films. Voilà comment elles s'intègrent dans un film, qu'est-ce qu'elles racontent, comment on compose une musique de film. Soyez à l'écoute. D'ici là, vous nous retrouvez en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Europe 1.